Zombie de Révolution sans précédent.
Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
Prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait.
21 millions.
Bonjour à tous, c'est le retour de 21 millions, le podcast Crypto Pédago qui vous explique simplement le Bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain. Je suis Grégory Raymond, journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la finance décentralisée, un secteur que vous pouvez aussi rencontrer sous le terme de DeFi. Alors derrière cette appellation, on retrouve le concept de décentralisation propre aux crypto-monnaies qu'on applique cette fois aux principes et aux mécanismes de la finance. Ça peut paraître compliqué, mais pour faire simple, imaginez des produits financiers comme un compte épargne ou des prêts, mais que l'on pourrait contracter grâce à un programme informatique sans qu'un banquier mette son nez dedans. En gros, une banque sans banque. Les bénéfices sont multiples. On bénéficie de meilleurs taux, les coûts sont réduits, les contrats exécutés plus rapidement et certaines décisions sont dépolitisées. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de décrocher un prêt bancaire si l'on ne dispose pas d'un CDI, et ce, même si on présente toutes les garanties nécessaires. Et bien, grâce à la finance décentralisée, on peut potentiellement emprunter tout ce que l'on veut tant qu'on est en mesure de mettre une crypto-monnaie de valeur équivalente en face. Et le programme informatique se fiche pas mal de votre contrat de travail. Mais bien sûr, ce n'est pas sans risque et on va vous expliquer pourquoi. Pour nous parler de ce secteur émergent au fort potentiel, je reçois pour cet épisode Brice Berda, qui appartient à l'équipe en charge du développement du portefeuille numérique Monolith. Bonne écoute et surtout ne manquez pas la newsletter 21 millions qui s'apprête à débarquer ce mois-ci. Bonjour Brice Berda, bienvenue dans 21 millions.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Je vous en prie. Alors, je vous reçois aujourd'hui pour que vous nous parliez un peu de finance décentralisée, que l'on rencontre aussi sous le nom de DeFi ou encore Open Finance. Même si je l'ai un petit peu évoqué en introduction, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est très brièvement?
C'est un peu un challenge, mais généralement, quand on essaie d'être bref là-dessus, on va plutôt se concentrer sur les valeurs, parce que c'est vraiment ça qui va différencier la finance décentralisée. Et il y en a 4, 5 qui sont grosso modo, tout le monde s'accorde dessus. La première, c'est que tout se fait en toute transparence. Donc contrairement à la finance classique où ça a une tendance à être assez fermée. Il y a aussi une idée d'accessibilité. Donc le plus possible, il n'y a pas de KYC ou de choses comme ça. Il n'y a pas de restriction d'âge ou il n'y a pas besoin d'avoir une adresse physique pour accéder à ces services. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Après, il va y avoir une idée de ce qu'on appelle la composabilité. Donc c'est en fait que tous ces services, c'est des briques qui peuvent interagir et se construire l'une avec l'autre très facilement. Je perds le quatrième. Donc transparence, accessibilité, composabilité. C'est transparence, mais c'est pas forcément évident. C'est le côté aussi, c'est beaucoup plus ouvert. Donc autant le code est open source. Donc ça veut dire que le code de ces plateformes, de ces services de finances décentralisés est disponible en ligne. Les gens peuvent le vérifier, l'auditer et même suggérer des modifications. Et en même temps, il y a aussi ce côté que la gouvernance en général de tous ces protocoles va être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus décentralisée. Donc si vous êtes intéressé dans un projet, généralement, c'est pas trop compliqué de s'impliquer, que ce soit en termes de décision sur le projet ou alors juste de s'impliquer plus support, documentation, choses comme ça.
Donc sur le papier, ça semble très bien, mais à quel besoin elle répond vraiment?
Alors le besoin, il y a plusieurs niveaux en fait. Vraiment, il y a le besoin juste en termes d'utilisateurs. Donc il y a des gens qui sont exclus de la finance classique aujourd'hui. Les exemples qu'on connaît généralement bien, ça va être des profil du genre, vous êtes un parieur en ligne et vous cherchez à dépenser votre argent, vous allez avoir des complications. Ça peut être aussi, on connaît tous que quand on voyage, on peut se retrouver bloqué, notre carte bleue ou des choses comme ça. Ou ça peut être aussi des métiers un peu plus, sensibles. Par exemple, les gens dans l'industrie du sexe, qui travaillent dans l'industrie du sexe, peuvent se voir refuser le service de leur banque parce que sur des critères en fait moraux, parce qu'il n'y a pas de base légale.
D'ailleurs, récemment, on a appris que PayPal supprimait leur support pour les professionnels du sexe sur les sites porno.
Et souvent, c'est d'une manière assez insidieuse, quoi, puisqu'ils sont pas, il y a pas forcément une question est-ce que vous êtes travailleur du sexe quand vous ouvrez un compte en banque. Donc ça passe. Et puis c'est plus après, une fois qu'il commence à y avoir des gains et de l'argent dans ce compte, qu'il va y avoir un problème et la personne se retrouve en fait bloquée, peut pas accéder à ses fonds. Et donc là, il y a vraiment un vrai problème aussi à ce niveau-là de gens qui sont, bon là on parle en Europe, en Occident, quoi, de gens exclus de la finance classique, mais après au niveau plus large il y a aussi une quantité impressionnante de personnes qui sont tout simplement exclues totalement du système financier juste par vertu de là où ils sont en fait.
En prenant des cas concrets, qu'est-ce que la finance décentralisée permet-elle de faire que la finance traditionnelle ne permet pas?
Alors là, il y a pas mal de choses. Moi, j'aime bien aborder ça avec une idée de plus de profil type pour l'utilisation, quoi. Donc, moi, il y a un cas qui me semble assez évident. Là, pour aujourd'hui, pour tout le monde, en Occident, c'est en gros utiliser la finance décentralisée comme une alternative à un compte de saving.
C'est compte épargne.
Compte épargne, merci. et bon, là, il y a plusieurs raisons assez évidentes pour ça. La première est, disons, l'éléphant, on va la clarifier tout de suite, c'est le taux, puisque le livret A, il est à
0,75. Oui.
Voilà. Et bon, là, le taux moyen sur un retour en stablecoin DAI, ça va être, on va en parler après de stablecoin, oui. Ça va être quelque chose dans les 7,75-8%, donc clairement 10 fois plus, voilà. Mais au-delà du taux, il y a aussi en fait énormément d'autres intérêts. Vous pouvez rentrer, sortir immédiatement. Les intérêts sont le plus souvent payés dynamiquement.
Ça veut dire quoi, payer dynamiquement?
C'est-à-dire que ils sont payés en fait
tout de suite.
Voilà. Alors bon, en fonction des services, parfois ça va être un paiement à la journée, par exemple pour certains services. D'autres, mais la plupart des services DeFi vraiment, ils sont en paiement dynamique, quoi. Donc toutes les 15 secondes.
Alors, dans un rapport sur l'Open Finance publié l'an dernier par Blockchain Partner, on peut y lire une citation de Will Warren, le fondateur du projet 0x, sur le concept de loterie géographique qui impliquerait la finance traditionnelle. Alors, je vais vous la citer en entier car je l'ai trouvée vraiment très intéressante. « Le déterminant principal de la liberté et des opportunités économiques d'un individu dépend de la région géographique dans laquelle il naît. Les plus chanceux naissent dans un pays où le gouvernement accorde à la population une voix, une éducation, un accès non censuré à Internet, des politiques économiques équilibrées et un niveau de corruption gouvernementale minimal. Mais la plupart des gens n'ont pas cette chance. Les blockchains nous donnent donc l'opportunité de sortir de cette loterie géographique en établissant un système financier ouvert et accessible mondialement, constituant une puissance forte égalisatrice dans le monde. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Ah oui, non, là, c'est vrai que, alors, je connaissais pas la citation, et merci, je m'aligne derrière. Ce que ça m'évoque dans le premier temps, c'est vraiment, voilà, ce que je disais, en fait, c'est que la finance décentralisée offre des outils, des briques, et après, à partir de là, sont construits des services, mais encore au-delà de ça, chacun après va, déployer une forme de stratégie, quoi, comme on le fait en fait sur la finance classique. Et les gens partagent bien sûr à propos de leur stratégie. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait chacun s'adapte à sa situation et c'est assez flexible pour en faire ce qui va être nécessaire en fonction des problèmes auxquels vous avez à faire face. Et bon, alors un parallèle que j'aime bien faire, mais il faudrait peut-être que j'arrête à un moment donné, c'est en fait j'ai fait une présentation récemment sur comment moi, en tant qu'Européen, j'utilisais la finance décentralisée exactement dans le cas qu'on discutait tout à l'heure, donc pour optimiser mon épargne dans la perspective d'une retraite anticipée. Voilà, on pourra en parler un peu plus si tu veux. Il y a par exemple Mariano Conti, un développeur qui travaille chez Maker, qui lui aussi avait fait une présentation il y a un an et demi maintenant à la dernière DEFCON, qui avait fait beaucoup de bruit, où lui en fait il expliquait comment il utilisait la finance décentralisée, donc à l'époque qui était un peu plus naissante et avec un peu moins d'outils, mais il y avait déjà des choses intéressantes à faire. Comment lui en fait son principal souci, c'était de se protéger de l'inflation de 40-50%
exactement en Argentine
sur la monnaie locale. Et donc voilà, là on voit en fait comme dans deux situations vraiment différentes, on a tous les deux trouvé de la valeur dans les outils qui nous étaient offerts. Et en même temps, et c'est peut-être aussi un point pour finir un peu sur cette caractérisation de la finance décentralisée, c'est peut-être un point intéressant aussi, c'est que non seulement on y trouve de la valeur, donc c'est-à-dire Mariano a trouvé un actif qui était stable, qui suit le cours du dollar, auquel il peut, dans lequel il peut s'exposer plutôt pour ne pas avoir cette exposition donc au pesos. Et moi j'ai trouvé des bons intérêts. Mais en faisant ça, on a aussi en fait nous-mêmes apporté un service à d'autres. Et ça, c'est quelque chose aussi de vraiment critique, je pense. C'est-à-dire que Mariano, lui, il utilisait le système Maker pour créer des DAI. Et donc en faisant ça, il apportait des DAI sur un marché secondaire, donc il apportait ce service de stablecoin à une communauté. Et moi, je suis plutôt dans la perspective où je prête des DAI que j'ai déjà sur différents services de lending décentralisé. Et donc en fait, j'apporte de la liquidité et je permets à d'autres gens de l'autre côté d'emprunter. Donc voilà, il y a ce côté, tu rentres, tu viens pour une raison un peu égoïste, parce que tu as un taux d'intérêt, parce que tu as besoin de te protéger quelque chose, mais en même temps, la manière dont le système est conçu fait que tu vas, malgré tout, t'inclure dans quelque chose de plus collectif et on pourrait dire apporter des services à d'autres, en fait.
Moi, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus précisément des différents projets du secteur. Alors là, vous évoquiez Maker et son DAI. Alors, je pense que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment le fonctionnement de ce projet. Pour faire simple, c'est à la fois un stablecoin, c'est-à-dire donc une crypto-monnaie dont la valeur est stable, mais aussi une plateforme de prêt construite sur Ethereum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible, et vraiment j'y tiens, il faut que ce soit très simple, son fonctionnement?
Oui, alors c'est vrai que ça peut faire un peu peur, surtout que Maker, c'est un des projets les plus anciens construits sur Ethereum, et donc il commence à y avoir plusieurs couches qui sont arrivées, disons, au fur et à mesure des mises à jour et des améliorations. Donc l'idée de base, c'était de résoudre un problème qui est l'Ether, c'est pas une monnaie stable. L'Ether, le cours varie. Voilà, aujourd'hui, on verra quand est-ce que sort ce podcast, mais le cours varie vraiment pas mal.
En ce moment, oui, ça varie pas mal. Ouais.
Donc, ça peut poser un problème à plusieurs niveaux, mais le cas le plus évident dans la finance, c'est que si je fais un prêt, par exemple, à échéance d'un mois, que ce soit du côté emprunteur ou de l'autre côté, le fait que l'actif puisse valoir plus ou moins 50% dans un mois, c'est compliqué pour nous deux. Et ça rend l'outil quasi inutilisable, en fait. Et du coup, en fait, il y avait ce problème de comment on résout ce souci de la volatilité. Et donc, on arrive à avoir ce qu'on appelle un stablecoin. Donc, en fait, un stablecoin, ça va être une crypto-monnaie qui va suivre le prix d'une monnaie fiduciaire. Donc, le plus souvent, c'est le dollar. Mais il y en a aussi sur l'euro et le pound et d'autres. Et alors, il y a plusieurs approches pour faire des stablecoins. Et il y en a notamment des approches beaucoup plus simples et directes, mais qui sont centralisées. Et donc, en deux phrases, l'idée, c'est de... Voilà, je mets 100 millions de dollars dans un coffre à la banque et j'émets 100 millions de dollars token, grosso modo. Et ça, il y a pas mal de compagnies qui suivent ce modèle. Mais ce n'est pas satisfaisant pour la finance décentralisée puisque ça implique qu'il va y avoir des audits sur cette compagnie. Il y a un point de centralisation et de risque énorme au niveau de la compagnie qui gère ça, quoi. Donc, en fait, Maker, eux, ont exploré une autre approche qui serait d'utiliser l'Ether lui-même comme collatéral, donc comme
contrepartie.
Voilà, comme contrepartie de ces stablecoins qui vont être émis. Et donc, en fait, là, bon, ça implique pas mal de choses, cryptographiques, des transactions, tout ça. Mais pour rester simple, le principal enjeu ici, c'est que du coup, comme l'Ether est volatile, comme on le disait, on peut pas donner un dollar crypto pour un dollar d'Ether, puisque le dollar d'Ether peut valoir 80 centimes d'Ether le lendemain. Et donc, en fait, le principal truc, c'est qu'il y a cette surcollatéralisation. Donc, il y a cette idée qu'en fait, tu vas pouvoir sortir maximum la deux tiers de la valeur en Ether en DAI. Et c'est ce mécanisme qui va permettre de s'assurer qu'il y a toujours au minimum, mais en fait, souvent beaucoup, beaucoup plus, mais toujours au minimum au moins un dollar effectif de valeur pour un DAI, donc un dollar crypto digital qui a été émis. Et donc pourquoi ça c'est intéressant? Parce qu'en fait c'est le stablecoin qu'on a qui est le plus crédible en termes de décentralisation, en termes de un gouvernement va pas être capable de le censurer, de l'arrêter, de saisir vos balances. Et on peut l'utiliser après dans les services de finances décentralisées et donc faire des prêts ou des choses comme ça avec. Et là ça devient vraiment très intéressant parce que du coup ça veut dire tous les services de finances classiques deviennent envisageables à terme, mais avec toutes les caractéristiques qu'on discutait, donc la transparence, le fait que c'est inarrêtable, que ça ne peut pas être censuré, le fait que c'est ouvert et ainsi de suite, et la composabilité et tout ça.
Et c'est le protocole qui reçoit le plus de valeur en ce moment. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de valeur, mais grosso modo, bon, il y a eu un chiffre qui a fait du bruit, mais maintenant il est un peu dépassé. C'était le 1 milliard dans la DeFi, 1 milliard de dollars. Alors maintenant, on doit être plutôt à 800. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé récemment. Mais en effet, Maker représente à peu près la moitié de ce total. Donc plus de 3 millions d'Ethers verrouillés dans Maker. Et bon, là, on parlait juste de Maker en tant que mécanisme pour émettre du DAI, donc le stablecoin, mais une mise à jour plus récente du protocole en octobre dernier a ajouté différentes fonctionnalités et notamment en fait un mécanisme qui s'appelle le DAI Saving Rate. Et en fait...
Oui, expliquez-nous. Ouais.
Et en fait, l'idée est assez simple, c'est de proposer aux gens qui ont des DAI de les verrouiller et en contrepartie, ils vont recevoir une forme de retour. Et en fait, ça devient un mécanisme de stabilisation du prix du DAI supplémentaire. Donc ça, du point de vue du système maker, mais d'un point de vue d'un utilisateur final, ça devient une opportunité de retour sur un stablecoin plus sûr que ce qui existait auparavant, puisqu'auparavant, les opportunités de faire un retour passif impliquait un prêt et donc au moins une couche de risque supplémentaire puisqu'il y avait de l'argent prêté, donc un risque de défaut et un risque au niveau des protocoles de prêt.
D'accord. Donc en fait, si je vous écoute, j'ai tout intérêt à convertir toute mon épargne en euros en DAI et de le déposer sur Maker et d'avoir un retour sur investissement de 8% par an.
Alors, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Donc
il y a forcément un risque.
Vous ferez vos propres décisions, mais évidemment, alors bien sûr, il y a des risques. Il y a des risques qui existent, mais la beauté de la finance décentralisée, c'est encore une fois, comme il y a cette transparence absolue et totale, bah, les risques, ils sont faciles à voir pour qui veut les connaître. Donc, bien sûr, bon, il y a les risques au niveau du protocole et Ethereum lui-même, mais ça, je vous laisse vous faire vos propres opinions. Mais après, au niveau de tout ce qui va être le principal risque, le principal facteur de risque pardon, dans la finance décentralisée, ça va être les smart contracts, puisque c'est ce qui va en gros permettre l'existence de tous ces mécanismes. Et à ce niveau-là, il y a eu quand même une très grande amélioration de l'hygiène, disons, des différents projets depuis quelques années, parce qu'il y a eu notamment un fameux défaut en 2016 DAO hack. Donc à partir de là, en fait, il y a eu une sorte de réveil à ce niveau-là dans l'industrie et le fait de demander des audits ou des choses comme ça est devenu beaucoup plus répandu. Et en fait, la plupart des services DeFi qui tournent maintenant ont des contrats audités 2-3 fois. Ils sont quand même assez vigoureux là-dessus, assez vigilants là-dessus. Mais alors, bien sûr, bon, on l'a vu récemment, il y a encore eu des soucis avec certains services qui a poussé l'ensemble de l'industrie à être plus résilient encore une fois. Donc voilà, il y a aussi un cercle assez vertueux où quand il y a une attaque, elle n'est pas passée sous silence et traitée par trois personnes qui vont la discuter dans un bureau. Elle arrive sur le réseau, tout le monde la voit. Les gens, ils mettent la transaction sur Twitter et ils sont là, ils la discutent. Et après, à partir de là, on commence à avoir... en fait, je pense qu'il y a... Il y a un bénéfice tiré en fait de chaque attaque effective réalisée dans l'écosystème, c'est que tout le monde devient plus conscient de ce vecteur d'attaque et en même temps, la connaissance générale grandit quoi.
D'accord. Et outre Maker, on peut également parler de Compound, l'autre protocole star du secteur, imaginé à partir d'un constat, c'est que la majorité des cryptoactifs sont aujourd'hui inutilisés car ils sont conservés sur des plateformes d'échange ou dans des portefeuilles crypto. Alors pourquoi ne pas imaginer un système où on gagnerait des intérêts comme avec notre bon vieux livret A? Ça ressemble un peu à Maker, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça diffère?
Ouais, alors sur Compound, alors en effet, en fait déjà il y a plusieurs marchés sur Compound. Je crois qu'il y a 8 différents tokens qui peuvent exister.
Tandis que sur Maker, il y en a qu'un.
Voilà, en fait Maker, il y a juste, c'est même pas vraiment un marché en fait, c'est un mécanisme pour verrouiller votre DAI et hop, voilà, vous avez l'intérêt. Donc sur Compound, en fait, il y a huit différents tokens que vous pouvez prêter et faire un retour dessus. Mais en fait, la plupart vont avoir des retours assez faibles en dehors des stablecoins et donc le DAI et l'USDC notamment sur Compound. Pour l'utilisateur final, le mécanisme est assez similaire. La principale différence étant que en fait là, ils vont ils vont vraiment avoir un token qui représente leur participation dans le protocole. Et donc, par exemple, pour ceux qui veulent prêter du DAI, ils vont en gros échanger leur DAI pour du CDAI, qui représente donc ce DAI qui gagne de l'intérêt continuellement. Voilà. Après, il y a différentes alternatives à Compound qui offrent des innovations pour les utilisateurs finaux. Notamment, par exemple, on pourrait mentionner AV, mais on va probablement creuser après.
Oui, un petit peu.
Mais AV offre un service similaire en termes de lending. Mais là, la beauté du mécanisme qu'ils vont avoir chez AV, c'est que il y a un ratio de 1 à 1. Entre le token prêté et le token qui représente le prêt. Et ça, c'est vrai que c'est un problème avec Compound. Parce que, alors, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est quelque chose comme un DAI égale 220 CDAI et le taux change continuellement. Et donc, du coup, votre balance en CDAI, ça va être quelque chose qui ne va pas vous dire grand-chose. Tu as 57 000 CDAI, tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Alors que sur un service comme AV, on va être sur quelque chose de 1-1. Donc, le ADAI, qui est la même chose que le CDAI, mais version AV, va être dénominé donc, en 1-1. Donc vous avez 1000 ADAI, vous avez 1000 dollars qui gagnent des intérêts.
D'accord. Mais moi j'aimerais qu'on reste un peu plus simple sur Compound. Ouais. L'intérêt que j'ai des crypto-monnaies, c'est juste de les mettre dans Compound et de toucher des intérêts dessus. Suivant la crypto-monnaie que j'immobilise, j'ai un taux de retour plus ou moins fort. Okay. C'est ça. Mais de l'autre côté, Compound sert donc à d'autres personnes d'emprunter des crypto-monnaies. Donc c'est une banque complètement décentralisée. C'est bien ça.
Ouais, c'est vrai que j'ai un peu ce biais. Moi, je parle pas mal dans la perspective de l'utilisateur final. Et il y a assez peu de gens dans cette perspective-là qui vont aller côté emprunteur. Mais en effet, ça va permettre de faire des choses plus intéressantes. Mais c'est plutôt utilisé par les gens qui vont vraiment être exposés à un niveau plus primaire sur ces marchés, qui apportent de la liquidité à différents endroits et des choses comme ça.
Et justement, qui aurait intérêt à emprunter des crypto-monnaies ?
Alors, on parle d'emprunt, mais faut aussi voir que souvent ça va être aussi dans des tokens différents, et ça permet de faire des choses intéressantes. Donc juste pour sortir un peu de Compound, mais parce qu'il y a la même question sur Maker, on pourrait dire qui va verrouiller des Ethers pour créer du DAI, sachant qu'il y a bien sûr un frais qui vient avec ça. Un des intérêts, ça peut être par exemple le côté, ça vous permet de verrouiller de la liquidité, d'avoir de la liquidité disponible à partir d'actifs sans les vendre. Donc si par exemple là vous avez beaucoup d'Ether, vous avez besoin d'argent aujourd'hui pour des dépenses, mais vous n'avez pas envie de vendre vos Ether parce que vous êtes quand même confiant sur le long terme, vous pouvez tout simplement ouvrir un vault, comme ils appellent ça chez Maker, une position, et donc créer vos DAI. À partir de là, DAI, vous allez pouvoir les dépenser pour une dépense courante, mais vous n'aurez pas vendu vos Ether qui sont toujours là, et qui, en recouvrant les DAI, vous allez pouvoir récupérer.
Donc pour simplifier, en fait, c'est comme l'hypothèque immobilière.
Voilà, le système de Maker, ça peut être une bonne comparaison. Et après, ce qu'il faut voir aussi là, que j'ai pas forcément encore bien souligné, c'est il y a aussi la dimension que ça peut être dans deux tokens différents. Donc notamment sur Maker, vous verrouillez de l'Ether, vous avez accès à du DAI. Donc après, avec le DAI, vous pouvez par exemple le réinvestir en Ether pour vous surexposer sur l'Ether. Voilà. Donc en fait, il y a un intérêt dû au fait que ce que vous utilisez comme contrepartie est un actif différent de ce que vous allez avoir comme actif disponible. Et donc il y a aussi une forme de conversion en plus d'un prêt. C'est pas juste un prêt, voilà.
D'accord. Donc en fait, il faut bien rappeler aux personnes qui nous écoutent que là, on imagine des mécanismes de prêt, d'épargne et tout, mais sur des protocoles où il n'y a pas d'entreprise derrière. Ça se fait automatiquement. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui développent derrière, mais les protocoles sont assez neutres. Donc c'est ça qui est assez fou.
Oui, alors c'est plus un objectif, toutes les valeurs dont on parlait. Pour être réaliste, il y a grosso modo trois protocoles qui correspondent à la définition aujourd'hui et disons une dizaine, douzaine qui sont en bon chemin et qui donnent des signes crédibles que c'est là où ils veulent aller. Mais oui, voilà, c'est juste parce que il y a quand même ce côté-là. Par exemple, pour être un peu plus explicite là-dessus et plus précis, en termes d'administration de ces différents protocoles, ces différents services de prêt ou d'échange, la plupart ont encore des clés. Donc en gros, un groupe de personnes qui ensemble peuvent faire un changement sur le protocole. Et parfois, ce changement est immédiat. Parfois, ça va prendre 24, 48 heures en être diffusé. Mais donc voilà, c'est juste pour rester assez lucide, c'est un objectif. On a certains protocoles comme l'échange Uniswap dont on parlait, qui lui tourne en fait complètement sans capacité de mise à jour. Et donc, il n'y a pas de clé d'administration. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'inarrêtable, de trustless et de tout ça. Après, sur d'autres services, on a encore du progrès à faire. Mais voilà, ils sont tous quand même assez conscients de ça. Et par exemple, on parlait de Compound là. Récemment, Compound a annoncé un projet pour ouvrir un peu plus la gouvernance de son protocole, avec notamment leur token, le COMP, qui va permettre aux gens de prendre part sur les décisions qui vont être faites et en fait, voilà, d'ouvrir de plus en plus le protocole jusqu'à, à terme, idéalement, pouvoir retirer cette capacité de mise à jour par les administrateurs.
Ok. Donc, on parlait de Maker, c'est un peu le leader du marché. Compound, il y a aussi Dharma. Hein.
Alors Dharma, ils sont vraiment plus concentrés sur un cas d'usage qui est très bien exécuté d'ailleurs. C'est l'idée que vous voulez profiter de ce dont on discutait tout à l'heure, donc le fait que les taux de retour sur les stablecoins sont quand même bien plus intéressants que le livret A. Et donc Dharma, en fait, c'est à la fois un portefeuille, un wallet, et en même temps ça vous permet de convertir facilement vos DAI en CDAI, donc pas en CDAI, du coup ils utilisent leur propre DAI qu'ils ont créé, le DDAI, mais c'est exactement le même mécanisme, à part qu'ils prennent une petite commission au passage. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit qui va être accessible pour le grand public, parce qu'ils sont vraiment concentrés sur la facilité d'utilisation. Je crois qu'ils vous demandent genre 5 ou 6 éléments, juste c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir sign up dans l'app, et après hop, vous pouvez commencer à envoyer de l'argent, vous pouvez charger depuis votre compte en banque, par transfert ou par carte. Ils ont vraiment travaillé à réduire les frais au maximum à ce niveau-là. Donc oui, voilà, il y a vraiment un intérêt pour, en gros, permettre aux gens de facilement épargner et de profiter de ces retours intéressants. Après, on est sur une application beaucoup plus limitée qu'un wallet standard. Donc c'est plus un outil d'évangélisation, disons, pour l'extérieur.
Et il y a aussi AV qui est intéressant.
Oui, donc c'est vrai qu'AV, on a parlé de la dimension, le fait de pouvoir en gros donc déposer des DAI dans le protocole pour avoir de la DAI et donc faire un retour dynamique dessus. Mais il y a d'autres aspects au protocole AV. Et notamment une des fonctions qui a été très discutée et qui a un peu excité l'industrie, disons, c'est ce qu'ils appellent les flash loans. Et donc là, on est sur une idée de faire un prêt éclair, quoi, un prêt rapide en un bloc, donc en 15 secondes, où vous allez donc avoir accès à un capital, pouvoir faire toute une série d'opérations, et la seule condition étant d'être capable de rembourser le capital à la fin de cette série d'opérations, avec un petit frais, bien sûr. Et ça, en fait, ça permet notamment de faire des arbitrages ou différentes choses comme ça, mais ça, en fait, il y a surtout toute une narrative qui s'est développée autour qui est assez intéressante, où on rejoint un peu une des valeurs de la DeFi aussi, qui est cette idée de donner le même service à tout le monde, qu'ils aient $1 ou $1 milliard. Et ça, c'est vrai qu'au niveau des taux d'intérêt, c'était déjà un problème. C'est-à-dire que si vous avez un capital $1 milliard en finance classique, vous avez probablement un meilleur taux que les 0,75% du livret A qui vous est proposé. Alors que voilà, côté DeFi, ce 8%, 9%, il est accessible dès $1. Bon, avec le gaz, tout ça, probablement plutôt 15, 20, 30, qu'importe. Mais voilà, il n'y a pas de capital minimal. Et là, dans la même logique, le flash loan, en fait, ça va permettre à quelqu'un sans capital, potentiellement maintenant, de faire une opération qui peut représenter jusqu'à $25 millions de capital effectif qui vont bouger, mais juste d'équilibrage. Voilà, après, ça peut être des choses, des arbitrages vraiment pur et simple. Sur un échange, je peux acheter tel token à 12, et sur l'autre échange, je peux le vendre à 13. Bon, ben voilà. Mais bien sûr, ça va être des choses, c'est de plus en plus complexe maintenant, et ça implique parfois différents services et des interactions entre ces différents services.
D'accord. Mais j'ai quand même un peu de mal à comprendre comment quelqu'un peut emprunter $20 millions sans contrepartie, quoi.
En fait, la façon dont le mécanisme marche, c'est que tout va se passer dans un bloc, une transaction Ethereum. Et donc déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il y a un séquençage des transactions. Et il y a vraiment l'idée qu'il y a deux choses qui sont indispensables, c'est vous empruntez au début, vous remboursez plus intérêt à la fin. Et donc si le séquençage ne permet pas d'aboutir au résultat, vous remboursez plus intérêt à la fin, toute l'opération est annulée. Et donc déjà là, à ce niveau-là, il y a une forme de garde-fou. Et après, oui, on est vraiment sur un truc très rapide, hein, on est sur 15 secondes. C'est pas non plus la même chose que des prêts de durée indéterminée.
D'accord. Donc, il y a aussi donc Monolith, la société que vous représentez aujourd'hui. Alors, vous faites quoi, vous?
Alors, nous, on est vraiment plus sur le côté de l'utilisateur final. Donc, ce qu'on apporte, c'est un portefeuille, un wallet Ethereum qui va vous permettre donc d'avoir de stocker vos Ether et les différents tokens qui sont construits sur Ethereum. On s'est vraiment concentré, nous, sur l'aspect l'usabilité, comme ils disent. En gros, le fait de pouvoir vraiment utiliser votre Ethereum, vos Ether aujourd'hui et faire des choses avec. Donc, notamment le dépenser. Et donc, en fait, ça se recoupe en deux dimensions principales. Le premier problème, c'était d'avoir un portefeuille mobile, mais en même temps aussi assez sécurisé pour pouvoir stocker l'utiliser comme votre portefeuille principal, idéalement, donc stocker des quantités importantes dedans. Et donc là, il y a toute une dimension au niveau de la sécurité du wallet qui utilise notamment un smart contract, donc c'est peut-être pas forcément utile de creuser, mais en gros, voilà, en deux phrases, ça vous permet de définir des paramètres de sécurité qui vont après être renforcés, être mis en application par le réseau Ethereum lui-même. Donc il y a une grosse garantie à ce niveau-là. Et après, la deuxième dimension, donc c'est le fait de pouvoir utiliser vos Ethers. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une carte Visa à l'utilisateur. Donc, ils doivent passer une vérification d'identité pour l'avoir, bien évidemment. Mais une fois qu'ils ont cette carte, ils peuvent en fait passer du wallet crypto, donc que eux seuls contrôlent à 100%, on ne peut pas interagir avec leur wallet, à la carte Visa en environ 30 secondes. Et donc, en fait, l'idée, on est vraiment dans un mécanisme qui vous permet d'avoir en termes de service, quelque chose d'assez similaire à une banque, mais avec un fondamental différent qui est on ne touche pas à votre argent.
Et le fait que vous ayez aucune prise sur l'argent des gens, ça n'a pas été compliqué dans les discussions avec Visa ?
Alors avec les régulateurs en général, je suppose, oui et non, ça a été un peu plus compliqué au début, mais en fait, d'un point de vue juridique, ça a aussi beaucoup d'avantages d'être donc non custodial, on dit en anglais, je sais pas si on a l'équivalent en français.
Vous conservez pas les actifs.
Voilà, voilà, qu'on ne conserve pas les actifs. Notamment, un des avantages, c'est que d'un point de vue purement juridique, on ne pose pas de risque pour les fonds de nos utilisateurs, puisque comme on ne les conserve pas, voilà. Alors qu'une compagnie qui garderait les risques des utilisateurs devient immédiatement une cible. Elle doit faire attention à sa sécurité et ainsi de suite. Mais elle doit apporter des garanties en termes de la sécurisation de ses fonds. Donc nous, en fait, on enlève toute cette couche de risque vu qu'on ne touche pas au fond, on n'a pas ce problème-là. Et ça, c'est vrai qu'une fois que c'est compris par le régulateur, ça rend l'équation beaucoup plus simple.
Ok, donc on a fait un bon petit tour des différents projets qui comptent dans l'écosystème, et je voudrais quand même qu'on parle d'un dernier, parce que c'est mon petit préféré, c'est Augure. Alors, c'est un protocole qui permet à tout un chacun de créer des marchés prédictifs. Donc n'importe qui, voilà, peut poser une question, et en fonction de la probabilité finale, vous gagnez ou pas de l'argent, quoi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, bien sûr. Alors après, je vais quand même préfacer ça un peu. Moi, je suis pas un énorme adepte de Augure. Alors, j'aime beaucoup ce qu'ils font, bien sûr, et je suis, mais j'ai pas énormément utilisé par moi-même, donc voilà, je préfère mettre ça. Mais oui, donc l'idée, c'est d'avoir en gros un système qui vous permet, comme tu le disais, de faire des prédictions et donc un pari sur l'issue de cette prédiction. Donc ça peut être des choses comme par exemple une élection dans un pays ou des choses même basées sur alors je sais pas après quelles sont les restrictions exactes sur Augure, parce que le problème avec ces mécanismes là c'est qu'en fait on a enfin le problème, plutôt l'enjeu, le principal enjeu, ça va être de ce qu'on appelle le problème de l'oracle dans l'industrie, en gros, c'est vous allez devoir confirmer un fait réel, un fait du monde physique, sur une blockchain. Puisque par exemple, mettons, je sais pas, si de Paris c'était Trump va être réélu dans la prochaine élection américaine, du coup il faut pouvoir confirmer les résultats des élections américaines, mais sur Ether, sur la chaîne Ethereum, qui de base ne peut pas accéder, il n'y a pas un navigateur, hop, lemonde.fr qui a gagné les élections. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a un problème à ce niveau-là de trouver une source de vérité que vous allez pouvoir après ramener sur la chaîne. Donc il y a le problème technique, comme on dit, de la source de vérité, mais parfois il y a aussi le problème de la formulation des questions. Donc là, j'ai pas d'exemple savant en tête, mais il y en a eu plusieurs où il faut vraiment être très, enfin c'est comme écrire une constitution, si vous voulez. Il faut être très très vigoureux, très très vigilant sur les deux fois sur les mots utilisés, parce que en jouant sur les mots, parfois on peut se retrouver avec des marchés, des choses qui fonctionnent pas, quoi. Je retrouve pas, hein, mais si t'as déjà entendu parler de ça, t'en as peut-être un bon.
Oui, j'ai pas de formulation en tête, mais oui, effectivement, faut faire très attention à comment on pose la question. Donc là, on a fait un bon petit tour des projets qui comptent. Et maintenant, j'ai une question un peu basique, hein, mais combien de personnes utilisent des protocoles de finances décentralisées aujourd'hui?
Alors ça, c'est une question un peu compliquée, puisque il y a le problème de le premier problème étant que un portefeuille, qui est l'unité de base sur Ethereum, on voit des adresses, donc des portefeuilles, des wallets, n'est pas forcément égal à une personne. Parce que, bien sûr, une personne peut avoir 4, 5, 6, oui, 10, sûr. 20, 30, 200 et portefeuilles.
Est-ce qu'on peut avoir une fourchette?
Parce que... et puis il y a aussi le problème qu'un portefeuille peut aussi être une entité, donc une entreprise, mais aussi une entité autonome, donc une DAO, qui représente différentes personnes. Donc voilà, en fait, il y a vraiment le problème de définir même ce que c'est un utilisateur. C'est compliqué, parce que c'est pas très clair. Mais en gros, les chiffres qu'on a et qui tournent donnent des choses. Il y a un subreddit sur Ease Finance qui compte 17-18 000 subscribers. Donc ça peut donner une idée de le centre de la communauté le plus actif, disons, le plus engagé. Et après, les estimations, généralement, elles sont dans les entre 10-15 000 et 40 000 utilisateurs.
C'est un tout tout petit noyau, ça vient à peine d'apparaître.
Après, bon, ça reste aussi des sommes quand même assez intéressantes par rapport au nombre d'utilisateurs, et ça n'empêche pas qu'il se passe des choses aussi tous les jours quasiment, à la fois de sorties, d'événements, de compréhension.
Et quels sont les principaux obstacles, en fait, au développement de la DeFi? Moi, j'imagine que l'expérience utilisateur, ça compte beaucoup. Les protocoles sont pas simples à utiliser. Je dirais aussi qu'il y a quand même un risque technique dans les smart contracts. Il peut y avoir une faille, quelqu'un qui vide complètement les fonds qu'il y a dessus. Il y a aussi des enjeux réglementaires. Par exemple, la lutte anti-blanchiment, ça compte, quoi. Parce que si sur des plateformes on peut emprunter un peu ce qu'on veut, il y a forcément un risque derrière, quoi. Et je dirais aussi qu'il y a peut-être un problème avec le manque de liquidité.
Là, ouais, tu peux rajouter la scalabilité, on a une bonne salade. pour les reprendre un peu et les creuser, définitivement oui, l'expérience utilisateur, alors on a eu de beaux progrès, on parlait des agrégateurs, des choses comme ça qui commencent à être intégrés dans les portefeuilles directement, mais il y a encore bien sûr un progrès à faire, et notamment il y a vraiment une là je vais plus parler dans mon périmètre qui est les wallets. Il y a vraiment ce truc que la plupart des wallets ont été conçus pour stocker des différents tokens qui ont un prix donné, et vous avez une quantité donnée de ce token et basta. Avec les services DeFi, en fait le scénario change, puisque vous avez des tokens, par exemple le CDAI, mais qui vont représenter en fait un certain retour sur une certaine durée, et donc la manière dont on les présente et dont on les traite en termes d'informations dans un wallet, dans un portefeuille, doit être différente. Et à l'heure d'aujourd'hui, les intégrations sont minimales en termes de structuration de l'information, quoi, sur la plupart des wallets. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, je pense, pour 2020, de comment on on permet aux gens d'avoir une interface claire, unique, pour voir l'ensemble de leur, leur position dans la finance décentralisée, les trucs qui performent, les trucs qui performent moins, et ainsi de suite. Après, ouais, évidemment, et c'est un peu lié aussi au fond, le problème légal de compliance. Donc, bon, il y a toutes les directives AML et tout ça. Ça, je laisserai les papes du légal en parler mieux que moi. Mais il y a aussi un vrai problème d'incertitude, quoi. Et ça, ça tue vraiment. C'est-à-dire que, en fait, c'est très très compliqué de juste comprendre à quoi on s'expose en utilisant ces services en termes de taxes. Et pour vous donner un exemple, par exemple, on parlait du DSR, Dai Saving Rank de Maker, donc le stablecoin Dai qui suit le dollar. Vous pouvez le verrouiller dans le protocole lui-même et avoir 8%, je crois que c'est actuellement. Quelle est l'imposition sur ça? Bon, déjà, ça, c'est la première question. Alors, a priori, voilà, on va trouver une correspondance avec la finance classique et on va dire, ah bon, c'est X%. D'accord, très bien. Maintenant, ça existe aussi, le même mécanisme, mais dans une autre forme, où cette fois-ci, pour rentrer, je vais échanger mon DAI contre un token qui s'appelle Chai. Mais ce Chai représente un DAI verrouillé dans le DSR. Donc, en fait, c'est la même chose fonctionnellement. Vous allez avoir un DAI qui vous apporte un retour. Mais d'un point de vue fonctionnel, il y en a un, c'est un DAI verrouillé dans un contrat, et l'autre, c'est un autre token, un Chai, donc, qui représente cette même situation. Et ben, en fait, bon, alors, ma compréhension juridique est très limitée, encore une fois, mais de ce que j'en ai compris, dans la plupart des pays, ces deux situations auraient des statuts différents en termes de taxes, alors qu'ils représentent littéralement la même chose. Donc, si on a des situations comme ça, et qu'on pousse la régulation, on va aboutir en gros à des systèmes qui se créent pour s'optimiser contre la taxation. Donc, ça va être assez stupide. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe là et de ne pas avoir peur, même si c'est nécessaire, tu vois, de définir des nouvelles catégories d'actifs ou des choses comme ça. Mais donc, ouais, il y a vraiment un problème de lever cette incertitude côté utilisateur, quoi. Voilà, c'est vraiment, je pense qu'il y a un peu cette peur pour pas mal de gens de recevoir la douloureuse dans un an ou deux, parce que, bah, je sais pas, c'était imposé à 40%, en fait, ou des choses comme ça, on savait pas. Ou même juste, en fait, c'est un risque en soi, le fait de pas savoir. Donc, on a parlé déjà pas mal de la sécurité. Après, il y a peut-être un autre problème que si on veut être exhaustif, qui va être donc la scalabilité, le fait de pouvoir gérer plus de transactions,
plus d'opérations. Oui.
Alors là, il y a peut-être deux choses principales, quoi. La première, c'est que sur la finance décentralisée, c'est quand même un critère un peu moins critique, dans le sens où bon, quand vous déposez de l'argent dans votre livret A, vous n'avez pas forcément besoin que ça se passe en 15 secondes. Quand vous le sortez, vous n'avez pas forcément besoin non plus que ça se passe en 15 secondes. Ça peut être OK si ça prend 3 minutes, quoi. Et donc, du coup, la vitesse, la performance en elle-même est un peu moins un critère. Mais bon, ça reste un problème au niveau fondamental sur les marchés, pour les traders, pour ceux qui apportent de la liquidité, et ainsi de suite. Et donc, à ce niveau-là, il y a différentes mises à jour qui sont prévues pour améliorer les choses, à la fois au niveau du réseau Ethereum lui-même, donc l'Ethereum 2.0, ça sera peut-être des gens pour en parler, mais aussi au niveau des développements directement sur Ethereum. Et donc il y a des choses assez innovantes qui sont sorties, même au niveau, par exemple, des protocoles d'échange décentralisés, qui permettent de continuer d'augmenter la capacité.
Mais au début, quand on parlait de finances décentralisées, on disait que c'était formidable parce que ça allait permettre d'inclure énormément de personnes nouvelles dans le système financier, parce qu'aujourd'hui elles n'ont pas vraiment accès au système classique. Par contre, je suis obligé de constater que c'est quand même très difficile à prendre en main. Il faut des compétences assez importantes et je doute que ceux qui se trouvent dans des zones peu développées y arrivent facilement. Du coup, la finance décentralisée, c'est vraiment passionnant intellectuellement et pour la technologie, hein. Mais au final, est-ce qu'elle pourra arriver auprès de ceux qui pourraient en avoir vraiment besoin?
Alors, il y a déjà des gens qui ont lu. Enfin, tu vois, on parlait des 40 000 ou qu'importe le nombre, ces gens qui sont là, la plupart, c'est des gens qui vont utiliser ces services tous les jours parce qu'ils en tirent de la valeur. Donc, il y a déjà quelque chose à ce niveau-là. Après, je suis d'accord, en effet, on est sur des interfaces qui restent bien trop compliquées pour être utilisées par tout le monde. Mais c'est peut-être pour reboucler sur mon point, c'est. d'une certaine manière, tant mieux. Parce que, alors c'est un peu polémique, mais tant mieux parce que si on avait 5 millions de personnes qui débarquaient aujourd'hui, on aurait déjà un problème massif au niveau de la capacité du réseau. Et puis même en soi, comme je te le disais tout à l'heure, tout ce para-écosystème pour moi n'est pas mature pour 5 millions de personnes. Là. C'est-à-dire il n'y aurait pas assez de contenu pour expliquer tout ce qui se passe, pour former les gens, pour les aider, les accompagner. Et ça, c'est mine de rien nécessaire. Parce que si on regarde pourquoi les gens utilisent encore des systèmes financiers classiques, c'est parce que mine de rien, la plupart se sentent assez désemparés et ils vont à la banque et ils ont un conseiller physique qui a a priori leur meilleur intérêt en tête. Et c'est ça qui est un des principaux attraits pour utiliser ce service. Et c'est vrai que de l'autre côté, en finance décentralisée, il n'y a pas de conseiller en soi. Donc c'est la communauté, Oui, c'est la communauté, le conseiller de tout le monde, en fait. Et on voit bien le rôle très critique que le conseil joue dans la banque classique. Et moi, je suis assez surpris de voir que dans la finance décentralisée, pour l'instant, c'est assez limité, quoi. Et après, bon, c'est peut-être lié aussi au fait que, encore une fois, on y revient au cadre juridique aussi. C'est-à-dire que quand tu sais pas l'état de la taxation ou des choses comme ça sur différents produits, ça devient compliqué après de commencer à les recommander à d'autres. Ou tu vois des choses comme ça, tu sais pas à quoi tu t'exposes. Donc c'est peut-être ça aussi qui freine le contenu produit dessus.
Ok, merci Brice d'être passé dans 21 millions.
Merci à toi Grégory.
Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode qui aura été très dense, mais j'espère tout aussi passionnant. Je vous invite désormais à suivre le compte Twitter du podcast 21 millions-du-bas, avec lequel nous pourrons interagir pour que vous puissiez proposer d'autres sujets ou encore approfondir certains éléments que nous avons déjà abordés. Comme toujours, je remercie Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur l'ensemble des plateformes de podcast que vous utilisez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. À bientôt.